Bonjour et bienvenue sur Radio CSEURT, votre podcast quotidien sur l'actualité cyber du jeudi 24 octobre 2024. Je suis Marc-Frédéric Gomez, en direct de l'Île-de-France. Vous trouverez dans la description tous les liens qui m'ont permis de créer cette revue d'actualité. Au programme, les escrocs exploitent des cartes SIM d'ascenseurs pour des fraudes massives pour aller jusqu'à 500 000 euros de préjudice. Le groupe hacker Lazarus détourne un faux jeu défi pour exploiter une vulnérabilité zéro day de Google Chrome. Et enfin, des mises à jour critiques publiées pour corriger des vulnérabilités dans les produits FortiManager, Centrion et les routeurs Cisco ASA. Une vulnérabilité critique a été identifiée dans Fortinet, FortiManager, impactant les versions allant de 6.4.x à 7.6.x. Plus précisément, elle permet l'exécution de code arbitraire à distance par un attaquant non authentifié, mettant ainsi en péril l'intégralité des infrastructures de gestion. Cette faille est réellement exploitée, donc elle est référencée sous la CVE 2024-47-575. Ce qui accentue l'urgence de sa rémédiation, c'est que c'est une vulnérabilité qu'on a besoin d'être authentifiée. Elle permet aux attaquants la possibilité d'exfiltrer des données sensibles telles que les adresses IP, des secrets, des configurations, des dispositifs supervisés. Donc qu'est-ce qui est touché? FortiManager Cloud, FortiManager version 6.2 avant la 6.2.13, FortiManager version 6.4 avant la 6.4.15, FortiManager version 7.0.x avant la 7.0.13. Fortinet a recommandé vivement la mise à jour vers les versions corrigées, notamment la version 7.4.5 ou supérieure pour FortiManager Cloud. Des indicateurs de compromission des IOC sont également fournis dans un bulletin de sécurité FG-IR-24-423 publié le 23 octobre 2024, soit hier, pour les entreprises qui ne peuvent pas appliquer immédiatement les correctifs. Des mesures de contournement temporaires sont proposées, bien que certaines puissent être contournées selon les configurations spécifiques. On a regardé, faut patcher. Sinon, vous allez vous faire compromettre, comme on dirait dans le terme cybersécurité, vous êtes ponçable. En cas de compromission suspectée, Fortinet et le CERTFR recommandent d'isoler les systèmes affectés du réseau, d'effectuer un gel des données pour investiguer en profondeur, et de consulter les guides et fiches réflexes dédiées à la réponse à incidents et à l'endiguation des compromissions. Alors, toutes ces fiches, toutes ces bonnes pratiques, elles sont disponibles sur le site du CERTFR, je vous ai mis le lien. Ça vaut la peine, c'est un très bon fil rouge, c'est un beau document, faut pas hésiter à le partager. Plusieurs vulnérabilités critiques ont été identifiées dans des produits Centrion, notamment Centrion B-Server et Centrion Web. Ces failles référencées sous les CVE 2022-31-160 et la CVE 2024-45-754 exposent les systèmes à des attaques par exécution de code arbitraire à distance ainsi que des injections de code indirect, donc des failles XSS. Les versions concernées incluent Centrion B-Server version 22.x à 24.x, Centrion Web version 22.x à 24.x aussi est impacté. Il est recommandé aux administrateurs de se référer aux bulletins de sécurité émis par Centrion, notamment les bulletins 13625 et 13707, pour appliquer les correctifs nécessaires. Les mises à jour à déployer concernent l'ensemble des versions affectées et doivent être installées dans les plus brefs délais pour éviter toute exploitation malveillante. Le groupe de hackers nord-coréen Lazarus a exploité une vulnérabilité zéro day de Google Chrome identifiée sous la CVE 2024-49-47 via un faux jeu de finances décentralisées, le jeu Défi, visant les individus dans le secteur des crypto-monnaies. Cette campagne, détectée par Kaspersky le 13 mai 2024, a débuté en février de la même année. Elle repose sur un faux jeu en ligne multijoueur basé sur des NFT appelés The Tank Zone, promu à travers des publicités sur les réseaux sociaux, des courriels d'hameçonnage ciblés et des comptes LinkedIn Premium utilisés pour attaquer directement des cibles de grande valeur. Quand vous suivez le podcast, vous avez pu voir qu'on est toujours sur les mêmes principes. On va faire du social engineering, on passe par LinkedIn, on l'envoie du mail de phishing, comme on appelle ça du spear phishing pour faire plus doué, mais et à la fin, c'est quand même la compromission. Le site web detankzone.com qui hébergeait ce jeu contenait un script caché exploitant la vulnérabilité donc de la CVE 2024-49-47, une faille de type confusion dans V8, le moteur de JavaScript de Chrome, et en déclenchant cette exploitation via un compilateur JIT de Chrome, les attaquants pouvaient corrompre la mémoire et obtenir un accès complet à l'espace d'adressage du processus Chrome. Cela leur permettait de voler des cookies, des jetons d'authentification, des mots de passe enregistrés et l'historique de navigation. Donc si au même moment vous êtes en train de consulter votre banque, vous êtes en train de consulter votre plan d'épargne, ce genre de choses, quoi, vous avez donné accès à un certain nombre de points, ben ils vont tout récupérer. Pour contourner la sandbox V8 de Chrome, Lazarus a utilisé une deuxième faille leur permettant d'exécuter du code à distance. Une fois exécuté, le shellcode servait à effectuer des actions de reconnaissance, collectant des informations telles que des spécifications du CPU, du BIOS, du système d'exploitation, tout en réalisant des vérifications anti-machine virtuelle et anti-débogage, avant de transmettre les données au serveur de commande et de contrôle C2 de Lazarus. Bien que Sikorsky n'ait pas analysé les étapes suivantes de l'attaque, les preuves et l'historique des opérations de Lazarus suggèrent que l'objectif final de cette campagne était de voler des crypto-monnaies. Google a corrigé cette vulnérabilité avec la version 125.0.6422.60 de Chrome le 25 mai 2024. Donc si vous êtes à jour, vous avez écouté cette news, ça va bien se passer. Par contre, si vous n'avez pas mis à jour Chrome depuis le mois de mai, faut patcher. Le dernier rapport de sécurité de Microsoft met en lumière une augmentation alarmante des cyberattaques à l'échelle mondiale, atteignant 600 millions d'attaques par jour, orchestrées par des groupes criminels et des acteurs étatiques. Selon le rapport de défense numérique 2024 de Microsoft, ces attaques ciblent des individus, des entreprises et des gouvernements avec des méthodes de plus en plus sophistiquées. L'un des aspects les plus préoccupants est la collaboration croissante entre des syndicats criminels et des groupes étatiques, facilitant l'échange d'outils et de techniques, ce qui rend les attaques plus diversifiées et efficaces. Les acteurs parrainés par les États intensifient leur activité, principalement motivés par des objectifs financiers et de collecte de renseignements. C'est ce qu'on appelle « on va faire de la fraude, on est des cybercriminels, si on récupère de l'info, bah l'échange pour avoir la paix, pour pouvoir continuer nos opérations, il faut toujours bien se rendre compte que les groupes d'attaquants, ce sont pas des sweats à capuche dans un sous-sol. Il y a des loups solitaires, mais la majorité, c'est quand même des entreprises, entre guillemets, structurées, dédiées au cybercrime. Alors, il y a d'autres exemples qui incluent des acteurs iraniens qui combinent des attaques par ransomware avec des opérations d'influence, ainsi que des groupes nord-coréens qui développent de nouvelles variantes de ransomware, telles que Fake Penny, qui visent les industries de l'aérospatiale, de la défense, on en a déjà parlé. Il y a les efforts chinois qui restent constants avec une focalisation sur Taïwan et l'Asie du Sud-Est. Donc ce rapport souligne également des préoccupations autour des interférences étrangères dans les élections américaines à venir, alors que des acteurs comme la Russie, l'Iran et la Chine exploitent les tensions géopolitiques pour saper la confiance dans les systèmes démocratiques. Pour faire face à ces menaces, Microsoft appelle à une collaboration renforcée entre les secteurs public et privé, ainsi qu'une amélioration des pratiques de cybersécurité. Parmi les mesures suggérées figurent l'authentification multifacteur renforcée, la réduction de la surface d'attaque, et une meilleure protection des infrastructures cloud essentielles pour répondre à l'évolution rapide du paysage des cybermenaces. C'est du rapport tout ça. La MFA, ça protège, mais c'est pas l'idéal. La réduction de la surface d'attaque, bah c'est simple, vous n'exposez rien sur Internet, hein. Bah ça va bien se passer hein, généralement. Hein. Mais vu qu'on est obligé d'être interconnecté, vous vous retrouvez, vous avez de la surface d'attaque. Meilleure protection des infrastructures cloud, ça sent la demande de financement, et c'est assez surprenant. Alors, moi, ce que je vois, c'est dans ce rapport. Le rapport est intéressant. Il y a 600 millions d'attaques par jour. Aucune équipe de réponse à incident, aucun SOC ne peut traiter 600 millions d'attaques par jour. C'est-à-dire traiter, on l'identifie, on qualifie, on va déposer plainte, on demande aux forces de l'ordre d'intervenir. C'est pas possible. Ce que moi, je vois, c'est que ce qui met en lumière, c'est que les États, les forces de l'ordre, quel que soit le pays, le continent, ils ne sont plus en mesure de protéger l'ensemble des citoyens ainsi que des entreprises dans le monde cyber à jour. On assiste à une sorte de privatisation partielle des missions régaliennes des États. La vraie question, c'est à quand des entreprises de cybersécurité basées sur les sociétés de militaires privés, ce qu'on appelle les SMP. Aux États-Unis, il y a bien des contracteurs qui se déploient sur le terrain, ce sont des anciens militaires. Ça choque personne. À suivre. Finissons par cette nouvelle qu'a remonté Klubik. Des cybercriminels innovent en exploitant une faille insoupçonnée dans les infrastructures urbaines, le vol de cartes SIM d'ascenseurs, transformant ces dispositifs essentiels en véritables hubs pour des opérations d'arnaque numérique massive. Cette méthode, connue sous le nom de SIM pumping, permet aux malfaiteurs de détourner les cartes SIM des ascenseurs pour envoyer des SMS frauduleux à grande échelle, provoquant des perturbations majeures et des pertes financières importantes. Les ascenseurs modernes, équipés de cartes SIM pour la maintenance à distance et les appels d'urgence, sont devenus des sites privilégiés pour les cybercriminels. En s'introduisant dans les compartiments techniques des ascenseurs, souvent sous-protégés, ces malfaiteurs dérobent ces cartes SIM pour les intégrer à des dispositifs permettant l'envoi automatisé de milliers de messages frauduleux. Ces SMS, habilement conçus pour imiter les communications d'institutions crédibles, c'est toutes les faux SMS que vous recevez sur les amendes en taille, sur l'identité numérique, on vous dit votre carte sécurité sociale. Ça imite aussi des banques, Ce modus operandi, qui cible principalement les immeubles résidentiels et publics, profite de la faible sécurisation donc des infras. Une fois la carte SIM volée, non seulement l'ascenseur devient inutilisable, paralysant les résidents, en particulier les personnes âgées et mobilité réduite, mais les gestionnaires d'immeubles sont confrontés à des factures téléphoniques astronomiques et à des frais de remise en état. Selon Nathan Lemaire, expert en cybersécurité, un vol de carte SIM d'ascenseur peut entraîner un préjudice allant jusqu'à 500 000 euros entre les coûts de la fraude et ceux liés à la réparation des systèmes. Cette nouvelle forme de cybercriminalité démontre une évolution inquiétante. Ça s'appelle de l'opportunisme. On sait que maintenant, les infrastructures physiques sont désormais exploitées pour mener des cyberattaques, parce qu'il faut quand même du physique pour faire une cyberattaque. Il faut soit des serveurs, faut une ligne Internet, faut du réseau. Et ce phénomène souligne aussi l'urgence d'un renforcement de la sécurité des dispositifs IoT. Quand on parle de l'IoT, pour beaucoup de gens, on pense à des caméras, on va penser à son petit téléphone portable, mais il faut savoir que nos voitures sont équipées aussi de cartes SIM. Pour moi, le game changer, on va devoir aller avancer sur les eSIM, donc sur les cabines d'ascenseur. Ça va demander un investissement massif, bien entendu, de la part des copropriétés, ainsi que pour les constructeurs automobiles. Bah, si dans votre voiture ou dans votre ascenseur, ou tout équipement utilisant des cartes SIM, bah, ça sera une eSIM et on ne pourra pas la voler. Quoi, il faudra la protéger autour parce qu'on peut après la voler de façon logicielle, mais pas comme ça. Et voilà, ce podcast de Radio Sessor du jeudi 24 octobre 2024 touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a apporté des informations utiles. Il est sorti tardivement. J'ai passé une nuit très compliquée suite à mon opération de lundi. Donc, c'était sympa, un aller-retour aux urgences. Ça explique le petit retard, mais comme vous avez pu le constater, je tiendrai le rythme. J'en sortirai un tous les jours. Donc, vous n'oubliez pas, si vous avez des questions ou des suggestions de sujets que vous souhaitez voir abordés dans nos prochaines émissions, laissez-moi un message sur notre répondeur au 07 68 72 20 09. On est là pour vous. Prenez soin de vous et à demain pour un nouvel épisode. Au revoir.